Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation.
Cérémonie d'échange de vœux ce mardi à Kinshasa entre le président de la République et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. À cette occasion, Félix Tshisekedi insiste sur les dossiers relatifs à la représentation de l'Afrique à la mission permanente de l'ONU 2026-2027 ainsi qu'à la présence de ses membres au Conseil des droits de l'homme 2025-2026. L'épidémie de choléra a déjà tué 16 personnes dans la province du Haut-Katanga et à 6 jours, 160 cas de cette maladie sont enregistrés. Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé appelle toute la communauté à l'observation stricte des mesures d'hygiène. Le chef de l'État devrait s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés nationaux parce que cette pratique de nommer les élus qui laissent leur siège à leurs proches installe progressivement une oligarchie dans le pays. Cette revendication est de la société civile parlementaire. Et pour en parler, nous recevons comme invité Maître Jean-Paul Moulianga, coordonnateur du bureau des liaisons de la CINCO avec le Parlement. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé ce mardi au Palais de la Nation ici à Kinshasa la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités dans la capitale congolaise. Dans son allocution, il a insisté sur les dossiers relatifs à la représentation de l'Afrique à la mission permanente de l'ONU 2026-2027 ainsi qu'à la présence de ses membres au Conseil des droits de l'homme 2025-2026. Par ailleurs, dans son message de vœux, le doyen du corps diplomatique accrédité en RDC a salué notamment le professionnalisme de la Commission électorale nationale indépendante, la maturité du peuple congolais prouvée lors des élections de décembre 2023 et la main tendue à l'opposition par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a quant à lui aussi présenté les vœux aux membres de son cabinet. Au Kwilu, Madame Florence Ilunga, membre de la société civile de Bandundu, plaide auprès du président de la République pour la nomination maximale des femmes lors de la formation du prochain gouvernement, mais aussi dans d'autres postes de prise de décision et dans les entreprises. Ce plaidoyer fait suite au constat selon lequel moins de femmes ont été proclamées élues tant au niveau national que provincial. Par exemple, dans la province du Kwilu, sur les 39 députés nationaux proclamés, il n'y a que 3 femmes et une seule femme est élue comme députée provinciale. Florence Ilunga trouve inconcevable que toutes les femmes qui avaient postulé ne soient pas élues. Et il est dit à Irène Bomaluzolo.
Vraiment, nous constatons avec désolation la non-représentativité de la femme parmi les élus. En tout cas, c'est une déception étant que femme. Je ne vois pas que toutes les femmes qui étaient candidates ne soient pas élues. Du coup, nous demandons au président de la Cour constitutionnelle qu'il puisse prendre en compte des dossiers des femmes qui ont introduit leur recours. Et nous demandons au président de la République, à qui nous devons hommage pour sa réélection, d'en tenir compte lors de sa formation du gouvernement. Nous sommes en train de mener notre plaidoyer à toutes les autorités du pays. Nous avons des femmes braves, capable de défendre ces pays. Pour ça, nous demandons que le quota de la femme soit respecté. Les nominations de ministres provinciaux, ministres nationaux, des PCA, des DG, que la femme soit représentée le maximum possible.
Les leçons à tirer des élections de décembre 2023. Ces thèmes étaient au centre d'une matinée scientifique organisée hier à l'Université catholique du Congo, ici à Kinshasa. Joël Bile, candidate à la présidentielle du 20 décembre dernier, relève la faible participation des femmes lors de ces scrutins. Quant au révérend Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, est l'un des responsables de la mission d'observation électorale CINCO-SIC, met l'accent sur les irrégularités constatées dans le déroulement de ces élections. Pour sa part, le professeur Alexis Mbikai épingle entre autres le manque de moyens de beaucoup de candidats pour battre campagne. C'est un compte rendu des Alphan Poissa.
Prenant la parole à ses assises, Joël Bile s'est toutefois réjoui de constater qu'il y a eu des femmes qui ont obtenu différents sièges plus que lors des élections précédentes. Cependant, Elle a estimé qu'au regard des efforts législatifs et réglementaires qui ont été faits, on devait avoir 50% de femmes alignées. Elle a plaidé pour une évaluation profonde, sérieuse, cohérente et sincère pour l'amélioration des prochaines élections.
Pour des choses améliorées, il y en a énormément. Je pense que déjà, il faudrait une évaluation profonde et sérieuse, cohérente et sincère. Vous savez que l'article 13 de la loi électorale a permis à ce qu'il y ait davantage de femmes installées sur des circonscriptions où il y avait plus de 3 sièges.
Fraude, tricherie, corruption et détention illégale des machines à voter ont émaillé les élections de 2023 selon le révérend Eric Nsinga. Selon lui, cela ne pouvait pas faciliter l'acceptation des résultats.
La première conséquence, c'est la difficulté au niveau de l'acceptation des résultats, puisqu'il y avait certaines recommandations qui devraient en principe aider la CENI à faire accepter les résultats. Ce sont les recommandations que nous avions formulées, notamment sur la gestion des machines qui se sont retrouvées entre les mains des gens, les votes qui s'étaient étalés sur plusieurs jours, donc l'article 52.
Égalité des chances pour tous les candidats et sincérité du choix des électeurs qui implique le recensement de tous les citoyens admis au vote sont deux points de mise en avant par le professeur Alexis Mbikayi lors de ce rendez-vous.
Nous l'avons dit dans les titres, le ministre provincial de la Santé dans les Haut-Katanga a décrété hier lundi l'épidémie de choléra sur toute l'étendue de la province. 160 cas ont déjà été enregistrés et ont causé la mort de 16 personnes. Pour cela, Joseph Sambi Bulanda invite toute la communauté à conjuguer les efforts pour lutter contre cette maladie par l'observation stricte des mesures d'hygiène. Jean Gando.
Les zones de santé les plus touchées sont Kisanga, Lukafu, Kampemba, Kenya, Kilalabalanda, Lubumbashi, Likasi, Mumbunda et Katuba. Et pour y faire face, le ministre provincial de la Santé instruit les autorités politico-administratives de différentes entités et demande également aux professionnels des médias, aux mobilisateurs, aux leaders communautaires, aux confessions religieuses, aux organisations de la société civile de sensibiliser la population tout entière sur le danger du choléra et l'importance d'observer les mesures d'hygiène dont quelques-unes sont déclinées ici par Joseph Sambi Bulanda.
Consommer une l'eau potable, bouillir l'eau de boisson à domicile, se laver régulièrement les mains à l'eau courante et au savon avant de préparer les aliments, avant de manger, avant d'allaiter, après avoir été aux toilettes, après avoir changé les couches du bébé. Bouillir les aliments avant de les manger, verser de la cendre dans les trous des toilettes pour tuer les mouches et éliminer les odeurs. Nettoyer les sol des toilettes, de toute trace de sel ou d'urine avec le balai dur.
Ainsi, il demande à la communauté qu'en cas de diarrhée, vomissement et maux de ventre, d'aller immédiatement au centre de santé le plus proche pour une bonne prise en charge. Lubumbashi, Jean Gando, Radio Kapi.
Par ailleurs, plus de 5000 déplacés, dont les femmes et les enfants fouillés à les violences de la milice Mobondo dans les territoires de Kwamout, province du Maïndombé, se retrouvent en séjour dans les territoires voisins de Bagata, dans la province d'Ikwilou, précisément dans les secteurs de Wamba. Cette nouvelle vague de déplacés est observée depuis les récentes attaques de cette milice contre les villages Mbunti et Fadiaka. Il y a de cela à moins de 2 semaines. Ces déplacés vivent dans des conditions déplorables. Le directeur des cabinets du ministre des Affaires humanitaires d'Ikwilou, Jérémy Bikele, qui alerte à après leur identification, invite le gouvernement ainsi que les partenaires humanitaires à voler au secours de ces personnes. Irène Mbomalouzolo nous en parle.
Selon les directeurs des cabinets du ministre provincial des Affaires humanitaires du Kwilu, au total 5120 déplacés internes sont accueillis dans plusieurs villages du territoire de Bagata comme Fambondo, Fatundu, Misai et Fasila. Il s'agit de ceux qui ont fui les récentes attaques des miliciens Mobondo contre certains villages de Kwamout faisant plusieurs morts. Parmi ces déplacés, l'on compte 1394 femmes identifiées et aussi des enfants, a indiqué Jérémy Bikele. Il rapporte que des salles de classe et églises sont transformées en lieux d'habitation pour abriter ces personnes en détresse. La même source qui ajoute que ces déplacés sont dépourvus de tout, plaide pour une assistance humanitaire en leur faveur.
Nous avons commencé à enregistrer encore une vague de personnes déplacées et qui reviennent dans le secteur de Wamba. Et leur situation humanitaire est toujours déplorable. Donc nous sommes en train de lancer un appel auprès du gouvernement national de pouvoir assurer une assistance humanitaire urgente pour que les conditions de vie de ces personnes puissent être sécurisées.
Le ministère des Affaires humanitaires du Kwilu sollicite également les renforcements des dispositifs sécuritaires au territoire de Kwamout au Maïndombe. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, 123 déplacés, surtout des enfants, sont morts en 2023 au site de Kigonzi. Nous sommes à Bunia. Selon le comité des déplacés, il y a une augmentation d'environ 50% des décès dans ces sites par rapport à l'année antérieure, à la suite de la suspension depuis plus d'une année de l'aide alimentaire par les humanitaires. Les responsables demandent au gouvernement de prendre la relève en vue de sauver et des vies humaines. Martial Kisabiamungu s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Érigé sur un espace de 20 hectares, le site de déplacés de Kigonzi héberge plus de 10 000 vulnérables du territoire de Djougou qui ont fui les attaques des hommes armés dans leur village depuis 2018. À ce jour, dépourvus de tout, ces personnes éprouvent d'énormes difficultés pour trouver à manger. Il y a plus d'un an, depuis qu'elles ont reçu une assistance à vivre des organisations humanitaires. Cette situation est à la base de plusieurs cas de décès enregistrés dans ces sites. Les plus touchés sont des enfants et des personnes de troisième âge. Le dernier cas est celui d'un bébé de 6 mois mort lundi à la suite de la malnutrition. Papi Faustin Gadjou, président du comité de déplacés, lance un SOS.
Et les AFAS ont commencé à développer un site de malnutrition très sévère. Pour le site de malnutrition, pour bien vivre, il faut d'abord qu'il y ait à manger. Une année et demie dira. Imaginez-vous dans quelles conditions on est en train de vivre. Alors notre souci était que, vu l'état civil que militaire, pourquoi pas les organisations non gouvernementales de venir en aide.
Cette suspension de l'aide humanitaire a jeté dans les rues de Bunia des milliers d'enfants qui font la mendicité pour la survie de leur famille. Bunia, Martial Kisabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, à Goma, dans la province du Nord Kivu, les évêques du Rwanda, du Burundi et de la RDC travaillent ensemble depuis lundi pour définir les actions concrètes qui vont accompagner la campagne Paix au Grand Lac. Après avoir visité les déplacés et prié pour la paix avec des milliers de fidèles catholiques dimanche à Goma, ces évêques élaborent dans cet atelier leur plan opérationnel pour la paix dans la région du Grand Lac. C'est ce que nous dit à Goma Rosalie Zawadi.
Au-delà de la prière, les évêques de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale reconnaissent que les populations de la région en général et celles de l'Est de la RDC en particulier attendent d'eux plus d'actions pour que la paix revienne et vite. C'est pourquoi ils travaillent depuis lundi au centre Bakanja de Goma pour identifier les actions qu'ils vont mettre en œuvre après cette visite. C'est ce qu'explique Monseigneur Bonaventure Naimana, archevêque de Gitega au Burundi.
Pour que la paix vienne, il faut notre engagement. J'invite alors tous ceux qui habitent cette région, même tous les habitants du monde entier, à être sensibles à la misère des populations de cette sous-région, afin que ceux qui font les guerres, ceux qui sèment des conflits et aussi puissent avoir cette conscience du respect de la vie de chaque personne.
Ces travaux qui ont commencé lundi se sont poursuivis ce mardi matin avant que les différentes délégations ne quittent Goma. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la situation est restée plus tendue ce mardi dans la matinée dans la région de Karuba, Mushaki et Musekera, non loin de la cité de Sake. Les sources locales affirment que l'armée procédait à des bombardements à l'aide de son avion, de son aviation, des positions ennemies. C'est sur la région montagneuse de Musekera, 8 km de Sake, qui est la cible des bombardements ce mardi. C'est à partir de ces sites que les rebelles du M23 auraient lancé des bombes hier lundi, qui sont tombées sur la cité de Sake et blessé grièvement plus de 5 personnes, dont les enfants d'une même famille. Ce grave incident s'est produit vers 18h45 au quartier Muyutsa, témoignent plusieurs sources à Sake. Ces nouvelles victimes des bombardements suscitent la désolation et la colère au sein de la population locale. La population de Sake, à laquelle s'ajoutent des milliers de déplacés, s'inquiète pour de cette nouvelle escalade des combats. Cette autre nouvelle sur la fréquence de la paix, près de 200 élèves réguliers de la province éducationnelle Kasaï Oriental 1 vont présenter l'épreuve de l'examen d'État comme candidat autodidacte. La faute commise par ces derniers est d'avoir payé après l'échéance prévue par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire la fiche d'enrôlement à l'examen d'État. Du coup, ces élèves sont exclus de l'opération des captures photo qui se déroule présentement et qui concerne les élèves réguliers. Les parents d'élèves ainsi que plusieurs chefs d'établissement scolaire s'inquiètent de cette décision. L'inspecteur principal provincial demande à ses élèves de ne plus être perturbés, mais de mieux se préparer pour affronter les épreuves. Radio Kapi Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Les élèves concernés par cette décision sont tous réguliers dans différents établissements scolaires où ils suivent normalement les cours. Malgré cela, ils doivent passer l'examen d'état comme candidats autodidactes parce qu'ils n'ont pas payé les frais de la fiche E01 ou d'inscription EXETA dans les délais prévus par le ministère de l'EPST, soit le 15 décembre dernier. C'est ainsi que les parents d'élèves et certains chefs d'établissement scolaire plaident pour que cette décision soit allégée afin de permettre à ces élèves de passer l'examen d'état comme élèves réguliers. Augustin Moudiaï, préfet de l'Institut Kamou.
Il y a certains parents qui ne sont pas en mesure de payer l'argent dans les délais convenus. Continuons aussi de discuter avec les ménagères. Certains parents sont travailleurs, payés en retard. Et aussi les parents qui se débrouillent avec des activités libérales, ils sont tentés de plaider. Et ces enfants-là, nous demandons qu'ils puissent accepter de récupérer ces enfants-là. Et demandons aussi aux autorités compétentes d'intervenir.
Contacté Innocent Lucienne Icom, IPP de la province éducationnelle Kassai Oriental 1, demande aux élèves de mieux préparer l'examen d'état.
Je ne vois pas de problème. Maintenant, là, ils n'ont pas à se décourager. Ils se préparent à aborder avec succès l'épreuve préliminaire qui aura lieu le 17 février 2024.
Signalons que c'est la première fois qu'un bon nombre d'élèves réguliers soient déclarés comme candidats autodidactes à l'examen d'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'invité.
Le chef de l'État devrait s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés et nationaux afin de leur permettre de faire un contrôle parlementaire efficace. C'est ce que revendiquent quelques organisations de la société civile parlementaire qui estiment que cette pratique de nommer des élus qui laissent leur siège à leurs proches installe progressivement une oligarchie ou une kleptocratie en RDC. Pour en parler, nous recevons Maître Jean-Paul Moulianga, coordonnateur du bureau de liaison de la CENCO avec le Parlement. Maître Jean-Paul Moulianga est interrogé par Michel Kifindangoy.
Maître Jean-Paul Moulianga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Michel Kifinda.
La nouvelle Assemblée nationale a été installée hier lundi. Êtes-vous satisfait de la consolidation de la démocratie?
En tout cas, en ce qui me concerne, quelques inquiétudes tout de même persistent, hein, notamment les parlementaires. Nous savons qu'ils sont là comme étant les représentants de la population. Mais est-ce qu'ils les feront suivant les règles de l'art, qu'ils vont les faire au mieux des intérêts légitimes de ceux qui les ont mandatés dans l'hémicycle? En tout cas, je n'y crois pas tellement.
À quel niveau est située votre inquiétude?
Mes doutes se situent au niveau, par exemple, du contrôle parlementaire. Donc j'ai peur que ce contrôle ne puisse pas bien se dérouler. C'est une question qu'on a débattue déjà dans la législature passée. Et actuellement, j'ai encore plus peur. Je vais vous dire pourquoi. Et il y a une autre question encore, c'est la question même de la participation de la population à ces parlements. Je vous ai dit tantôt que les parlementaires ne sont pas là pour leur propre honneur, ni celui de leur famille politique, mais ils sont là pour représenter la population au mieux, donc, de ses intérêts légitimes.
Qu'est-ce que vous avez constaté d'anormal?
Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Bon, d'abord, le Parlement, il est l'Assemblée nationale, majoritairement composée par le courant politique de l'Union sacrée de la Nation, qui a une majorité écrasante. On n'en dit ce qu'on vient pas, mais est-ce que cela ne va pas porter préjudice à l'attention, par exemple, à prêter à l'autre son des cloches?
Mais l'opposition peut bien faire entendre sa voix au niveau provincial, municipal ou local, comme l'Union sacrée a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale.
Cette majorité écrasante et l'Union sacrée de la Nation, ce n'est pas seulement au niveau national, mais c'est à tous les trois paliers de la gouvernance. Donc là, j'ai pensé au niveau national avec les deux chambres, au niveau des provinces avec dans les 26 assemblées provinciales et même dans les conseils locaux au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc c'est la majorité écrasante. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont là pour représenter la population congolaise dans sa diversité. Et là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Ils doivent avoir la même hargne pour défendre les intérêts de ces Congolais qu'ils représentent.
Si je vous ai bien compris, vous dénoncez une prise en otage de tous les postes électifs par un petit groupe des dirigeants. Pensez-vous qu'après les élections, l'actuelle configuration politique ne reflète pas vraiment la volonté du souverain primaire?
Mais à voir comment les choses se dessinent jusque-là, nous avons l'impression que la malice et la ruse politicienne sont toujours de mise. Le président de la République, dans son adresse à la nation lors de son investiture, il avait rassuré les Congolais de tous bords qu'il va s'atteler à la correction des erreurs du passé. Mais connaissant les acteurs politiques, avec tant leur malice et ruse politicienne, beaucoup de ceux qu'on a vus là élus, certains élus à la fois au niveau national et au niveau des provinciales, nous savons que c'est une stratégie Ils vont tout faire pour se faire nommer soit dans le gouvernement ou se faire nommer comme mandataire. Et comme ça, ils vont libérer leur place au bénéfice de leurs cousins, membres des familles proches, donc épouses, enfants. Et là, ça ne nous rassure pas qu'on aura la qualité de la représentation. Si du moins les chefs de l'État, comme la majorité, c'est dans sa famille politique, pouvaient donner un mot d'ordre pour que ces élus-là demeurent au sein de l'Assemblée nationale, afin que là, ils puissent s'atteler à leur travail constitutionnel, de voter des lois, de contrôler le gouvernement effectivement, on pourrait espérer quelque chose.
Qu'est-ce que vous craignez concrètement et que recommandez-vous au président de la République?
Finalement, nous risquons de revivre les mêmes tâches qu'on a décliées par le passé, avec la naissance d'une oligarchie, une kleptocratie, donc des personnages qui vont en fait avec les leurs s'accaparer de la gestion de la chose publique. À part ceux qu'on a votés, le chef de l'État pourra discrétionnairement choisir d'autres Congolais compétents, il y en a, dans les différents secteurs de la vie nationale, qui peuvent aider le chef de l'État à relever les défis qui se posent à notre nation. Mais ce n'est pas seulement sur ces mêmes acteurs politiques habitués aux combines que le chef de l'État pourra compter pour relever les défis qui se posent à notre nation.
Quelles sont vos attentes pour cette nouvelle législature?
Une autre grande attente que nous avons des nouveaux élus, c'est de booster un peu cette décentralisation qui a montré un peu ses limites. En effet, la décentralisation a transféré des pouvoirs aux élus, mais pas aux citoyens. Cette décentralisation, c'est un cadre exclusivement représentatif, et avec parfois même une volonté explicite de limiter les droits à la parole des citoyens. La simple consultation ne suffit pas. Les Congolais ont soif d'avoir l'instauration d'une démocratie participative, en commençant par l'adoption de la fameuse loi d'accès à l'information publique. C'est la loi qui permet aux citoyens d'avoir un gouvernement, un parlement, une administration transparente. Voilà des choses qu'on attend.
Maître Jean-Paul Moulianga, je vous remercie.
Et merci beaucoup.
Le coordonnateur du bureau des liaisons de la CENCO avec le Parlement s'entretenait avec Michel Kifindangoy. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision éditoriale d'Alain Rungmouchins. Merci à Dieudonné Nyangasa qui a assuré la mise en onde. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Nicole Koudiangela, à vous l'antenne.